RMC.
Oh, c'est gonflé. Oh, c'est gonflé. Oh!
Basket time.
On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie.
C'est fini, champion d'Europe de basket, messieurs dames. Jacques Monclar est aux anges, on est tous aux anges.
Arnaud Valadon.
Salut à tous, bienvenue dans Basket Time, épisode 210. Consacré à l'équipe de France de basket, l'ère Freddy Fautoux s'ouvre. Le nouveau sélectionneur qui a succédé à Vincent Collet après les JO, les Bleus jouent leur match de qualification face à Chypre ce jeudi en terre chypriote. Match retour le dimanche à l'Arena Futuroscope sans les joueurs NBA et sans les joueurs Euroleague. Émission spéciale aujourd'hui puisque Stephen Brun, il n'est pas en studio mais il a beaucoup bossé. Il est allé rencontrer Freddy Fautoux, Nolan Traoré et Andrew Albici, des entretiens que vous retrouverez dans un instant dans cette épisode spécial. Mais Basket Time ne serait rien sans ses débats enflammés et donc une petite équipe de 3-3 pour vous accompagner. Si Fred Weiss avait été international, il aurait été Fred Weiss.
Ben oui.
Salut.
Bien
Fred.
Trouvé ça. Salut.
Ah, t'as vu l'inspiration là ?
L'inspiration de folie. Mais j'attends la prochaine. Vraiment.
Si Geoffrey Charpie avait été international,
il aurait été arbitre international.
Il aurait été Stéphane Lauvergne, ben natif voilà. De Clermont-Ferrand. Ben,
c'est très bien, Stéphane.
Une sélection.
Stéphane avec une belle descendance.
Exactement, très belle Geoffrey. Descendance.
Pas de Geoffrey Lauvergne, voilà. Effectivement. Mais on n'oublie pas que Stéphane a été international plus ailier. Hein. Alors que Geoffrey est vraiment un pivot. Ouais.
Oui, surtout plus balèze.
Oui, un petit peu. Voilà.
Ça va, messieurs.
Et Johanna également, la fille de Stéphane, voilà, belle famille. Franchement, on pue le basket en Auvergne, vraiment, c'est.
Exactement, c'est oui, j'avais plusieurs choix.
Écoute, bon, voilà.
Et finalement, ça s'est porté sur un vrai natif de Clermont.
Hein. Merci beaucoup.
Stéphane Rizaché est né à Moulins, pas très loin aussi.
Pas très loin.
On prend.
J'ai hésité.
Moulins, c'est
va
la
bien
famille.
Ça
va bien, mais toi, si t'avais été un international, t'aurais été qui?
Oula.
Est-ce qu'il y a des internationaux qui sont nés à Reims? Qui sont originaires de
Saurée.
T'aurais été Audrey Saurée.
Audrey Saurée qui est peut-être l'une des plus grandes basket. Jules Rambeau aussi.
Ah bah voilà, avec t'aurais la coupe
été Audrey Saurée, je pense.
La coupe mulet, ça tirait très bien ça.
Vous savez, il y a un truc, je viens de me rendre compte que Fred Weiss a le même prénom que Freddy Fautoux en fait. Mais on les appelle jamais Frédéric.
Non, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Et mais Frédéric, c'est pas terrible.
T'aimes pas trop qu'on t'appelle Frédéric?
Non, c'est un peu. C'est ma maman qui, quand elle veut m'engueuler.
Ah, c'est jamais bon signe ça.
Allez, messieurs, rapidement le programme, justement. Qu'attendre de Freddy Fautoux à la tête de l'équipe de France? On en parle. Nolan Traoré, doit-il être le meneur titulaire, notamment pendant ses fenêtres? Et puis, la partie historique, les débuts de sélectionneur. Voilà, c'est vrai que. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu le début d'un mandat de sélectionneur, hein, puisque Vincent Collet était en place depuis 15 ans. Et puis le quiz autour de Freddy Fautoux. Voilà, ce sera un quiz rapide, hein, puisque vous n'êtes que de Basket Time, votre podcast dédié à la balle orange, toutes les semaines sur vos plateformes. C'est parti.
Freddy Fautoux vient d'être nommé sélectionneur de l'équipe de France Fautoux. De basket.
Écoutez le Palais des Sports, 8 personnes pour ce panier à 3 points.
C'est un poste qui fait rêver, c'est un poste que beaucoup de monde aimerait avoir.
Freddy Fautoux qui prend le shoot à 3 points. Oh mon Freddy, le petit tout dans sérieux qui met le dernier shoot.
Fautoux qui est à force à scolari à Popse.
De toute façon pour gagner il faut tout ça.
Ce blanc qu'on a laissé derrière était pas volontaire mais j'étais pas prêt.
Non moi non plus. Ça allait bien, je trouve, avec la vanne.
Même quand Stephen n'est pas là, il est là. C'est ça, sa force. Et justement, on va l'entendre dans un instant. C'est une nouvelle ère donc qui s'ouvre. 15 ans de présence. Et Vincent Collet a donc quitté ses fonctions de sélectionneur sur une médaille d'argent olympique, la deuxième. Place désormais à Freddy Fautoux, l'entraîneur de Bourg-en-Bresse, ancien international en tant que joueur. Et bien, Stephen l'a rencontré, ce nouveau sélectionneur des Bleus, pour un entretien pour Basket Time. On écoute. Et on en débat après.
Freddy, ça y est, on y est. La présentation, l'officialisation, là, t'es vraiment dans le vif du sujet. T'as fait tes premières séances d'entraînement. Est-ce que c'est encore plus d'émotion que quand t'as été nominé ou pas ?
Non, un peu moins. Un peu moins quand même, quoi, parce que maintenant, il y a encore plus de sens des responsabilités qui arrivent avec les joueurs, avec tout le staff. Donc, c'est des journées qui sont très chargées aussi, puisqu'on met les choses en place. On a peu de temps pour préparer les premières échéances de matchs contre Chypre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'émotions. Quoi. C'est pas rien de recevoir les deux valises, d'accueillir les joueurs, de partager des choses aussi avec tout un groupe. Et ça me semble important aussi. Les réunions d'accueil, etc., de poser les valeurs, un petit peu les mots. Donc, Donc voilà, c'est de l'émotion, mais il y a, comme je l'ai dit aussi le premier jour, le sens des responsabilités que l'on sent encore un peu plus.
Justement, c'est une fenêtre express. Il y a quasiment très peu d'entraînement avant de jouer jeudi. Avant, la plupart de ces garçons-là, c'était Vincent Collet, ça fait 15 ans, ils se retrouvaient, ils avaient une base déjà sur comment on joue au basket. Toi, c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Comment tu fais en 2-3 entraînements pour mettre des choses en place pour jouer?
Alors, il y en a exactement 4, dont celui d'hier, il n'y a pas d'opposition parce qu'il y a des joueurs qui ont joué dimanche. Donc, alors il y a énormément de réunions déjà avec le staff technique pour déjà réfléchir au jeu que l'on aimerait poser pour les deux premiers matchs. Et on est très concentré sur les deux matchs en fait qui arrivent. Donc c'est pour ça qu'on ne s'éparpille pas trop. On va donner 6 à peu près formes de jeu pour que les joueurs puissent avoir des repères. On va essayer de on joue beaucoup sur la journée d'aujourd'hui pour qu'ils réussissent à créer des automatismes très rapides. Et puis, j'ai envie de dire surtout, et c'est ce qui est presque le plus facile en France, c'est d'imposer notre intensité de jeu, surtout défensive, pour pouvoir avoir du jeu rapide, pour pouvoir marquer des paniers, parce qu'on aimerait aussi se faire plaisir en jouant au basket.
Et le principe de ces fenêtres, c'est toujours particulier parce qu'il y a des garçons à qui tu es obligé d'expliquer, écoutez, votre but, c'est de qualifier la France à l'Eurobasket, mais pour la plupart, vous ne participerez pas à cette fête-là. Quel discours tu leur tiens, toi?
Alors, on en a parlé un petit peu hier soir, mais c'est vrai que les deux rendez-vous de Chypre sont déjà très importants, puisque, comme tu l'as dit, il y a une qualification à jouer. Et hier soir, on a déjà parlé que, février, il y aura aussi le choix avec des joueurs d'Euroleague. En espérant qu'on se qualifie l'été, il y aura aussi le choix des joueurs de NBA. Mais l'équipe finale, si elle gagne quelque chose, n'aura pas gagné si l'équipe d'aujourd'hui ne qualifie pas. Et ça, je peux en parler d'autant plus facilement parce que j'étais un peu joueur de fenêtre, donc je sais ce que ça peut représenter. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes joueurs, on ne connaît pas leur évolution, peut-être qu'ils seront en février, qu'ils seront l'été, et qu'aussi il peut y avoir des joueurs spécifiques qui auront des rôles précis à un moment donné, parce que dans une sélection, c'est ce qu'on a dit aussi, il n'y a pas forcément les 12 meilleurs joueurs au final. On va essayer de construire la meilleure équipe et peut-être qu'on aura besoin d'un joueur hyper adroit à 3 points pour écarter les défenses avec des joueurs intérieurs bien précis. Donc voilà, c'est ça quoi. Mais ce n'est pas mentir de dire ça, mais il ne faut surtout pas mentir en disant que l'équipe d'aujourd'hui, c'est celle qui aura au mois de septembre. Il n'y a pas de chance.
Tu n'as pas pu réviser la Marseillaise samedi soir en regardant France-Nouvelle-Zélande parce que tu jouais avec, avec Bourg-en-Bresse à Chalon-sur-Saône. Tu te projettes déjà sur jeudi soir la Marseillaise, le costume, ta première en tant que sélectionneur de l'équipe de France A?
Alors, détrompe-toi, je l'ai chanté dans la voiture puisqu'on joue à 18h, ils ont joué à 21h. Donc je peux te dire que j'avais RMC bien allumé et je l'ai chanté pour bien intégrer toutes les paroles que je connaissais déjà par cœur. Mais oui, je, bien sûr, j'y ai forcément pensé. J'ai même des amis, 4, qui viennent exprès de France pour assister à la première. Donc ça pour moi c'est... Oui, et pour quelques autres aussi, c'est pas que moi. Laurent est dans le même état d'esprit que moi, certains joueurs aussi. C'est quelque chose de particulier, c'est une fierté. Donc j'espère que je déraperai pas dans les paroles.
Il y a 2 mois, je t'avais reçu sur RMC, je t'avais parlé de ta nouvelle mission qui implique aussi de regarder ce qui se passe aussi outre-Atlantique, des matchs, beaucoup de matchs NBA. Est-ce que ça y est, tu t'y es mis, tu as suivi l'évolution de Zachary Risacher, le début de Zachary Atlanta et de tous ces garçons qui jouent là-bas?
Oui, bien sûr, et très sérieusement. C'est quelque chose qui, au quotidien, le lundi, on balait tous les championnats nationaux, la semaine, on balait tous les jeux l'Euroleague, et c'est vrai que tous les matins, je me suis mis la petite application pour voir ce qu'ont fait nos Français, parce que c'est important de les voir évoluer. J'ai même regardé des bouts de match de certains, parce que c'est important de savoir aussi comment ils sont utilisés, et donc leur évolution. Oui, donc effectivement, là, je me suis élargi mon panel de connaissances du jeu.
Et quand tu regardes un match NBA, on sait que ce n'est pas forcément ta culture première, le basket. Est-ce qu'il y a des choses qui te choquent ou qui te surprennent dans le jeu NBA, que ce soit en bien ou en mal?
Alors, ça ne me choque pas. Par contre, je suis agréablement surpris de voir des... Alors, même si c'est des systèmes beaucoup plus courts que les nôtres, il y a des instants de jeu qui sont exactement identiques avec ce que nous on peut produire en France ou en Europe. Et ça, quand tu regardes que les highlights, comme beaucoup ont fait, tu t'aperçois pas de ça. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choses communes. Et c'est ce qui est intéressant parce que du coup, on pourra piocher des uns et des autres pour mettre, si on sélectionne des joueurs NBA qui méritent d'être dans l'équipe, dans le jeu qu'on va proposer.
J'imagine que l'Euroleague était à fond dedans. Il y avait la petite nouveauté qui était Evan qui revient en Euroleague avec Olympiakos qui est plutôt très très bon. Est-ce que tu es surpris de comment ça se passe pour lui avec Olympiakos?
Ouais, alors, et pas que lui. Parce qu'il y a quand même Théo Malédon qui revient aussi, qui avait un rôle moindre à NBA, qui quand même éclabousse nos écrans.
Franck Nilikina qui est en stade, c'est peut-être moins.
Qui joue pas au même poste, mais qui est très précieux pour le Partizan. Donc, je suis très satisfait de ce qui se passe en Euroleague aujourd'hui, forcément. Donc, Evan s'imprègne énormément du basket d'Olympiakos, qui correspond vraiment à ce qu'on a envie de proposer après en équipe de France. Et puis surtout, c'est que pendant très longtemps, on s'est plaint de ne pas avoir de meneur de jeu. Et aujourd'hui, entre Théo, entre Sylvain, entre Nadir, c'est entre Franck, c'est des joueurs qui performent énormément avec leur club. Donc on aura le choix. Et ça, c'est de bon augure pour la suite.
Si tu fais un concours en 3 points avec tes joueurs, là, tu les tapes encore.
Moi, ouais, je pense.
Ah, c'est pas bien, voilà. Merci, Freddy. Bonne première.
Mais je le ferai pas.
Merci Stephen pour cet entretien avec Freddy Fautoux. S'il fait un concours face à ses joueurs à 3 points, il gagne.
Non, mais tout ça, il y a une raison et j'ai une explication. Hein. C'est pas un non catégorique, pas au niveau de l'adresse. C'est juste que c'est quelqu'un qui a toujours aimé les shoots difficiles. Et quand tu fais des concours, bah, c'est shoot un peu dans un fauteuil et c'est pas sa spécialité à Freddy Fautoux.
C'était quelqu'un qui adorait le run and gun, voilà, c'est-à-dire les tirs à 3 points en première attention, en contre-attaque. C'est vrai que sur un concours où on a tous les images des concours à 3 points NBA où on est plus posé, les appuis dans le sol, je suis pas sûr qu'il performerait. Enfin, si, il performerait.
Non, mais il mettrait des shoots, évidemment, voilà. c'est un bon shooter. Ouais. Mais c'est vrai qu'il aimait bien les shoots un peu plus difficiles avec de la défense, un peu,
toi, tu
un peu précipité.
Des
moi
sur un shoot, sur un concours à 3 points,
je mettrais autant que chaque à peu près.
autant à côté. Justement, la promesse de Freddy Fautoux, c'est un basket total pour cette équipe de France. C'est-à-dire, on s'attend peut-être à un basket plus tourné vers l'attaque, alors que c'est vrai que ces dernières années, surtout pendant les JO, et c'est même l'ADN historique de l'équipe de France, c'est la défense. Ça ne passe que par des grandes performances défensives. Alors, il n'est pas question de ne plus défendre, évidemment, en équipe de France. Mais quand tu entends, Fred, ce basket total qui est quelque part la promesse de Freddy Fautoux à la tête de cette équipe de France, est-ce que tu y crois?
Bah, j'y crois parce que c'est ce qu'il aime déjà. C'est clairement le basket qu'il prône. Lui, il aime bien être discipliné défensivement, donc très bien défendre, être agressif sur le ballon et tout ça. Sauf qu'après, en attaque, en gros, tu fais un peu ce que tu veux. Il y a des entrées de jeu. Et après, c'est à la lecture des joueurs. Et quand on a des joueurs de la qualité, des joueurs de l'équipe de France, bah, ça peut donner des choses hyper intéressantes. Donc c'est comme ça qu'il est connu, en tous les cas. C'est ce qu'on a vu à Bourg. On avait vu déjà ça quand il était à Boulogne-le-Valois. C'est vraiment cette identité où il manque beaucoup défensivement, même si ses équipes sont pas toujours les meilleures en défense. Mais en tous les cas, il est exigeant défensivement et beaucoup moins offensivement. En gros, il a confiance aux qualités de ses joueurs. Et quand t'as Victor Wembanyama et autour des mecs qui sont en train de prendre du gras, du galon en NBA, des mecs qui progressent, on l'a dit en Euroleague, enfin il l'a dit en Euroleague, moi je pense que ça peut être un basket intéressant.
Parce que ça correspond aussi à cette nouvelle génération qui arrive, pétrie de talent en attaque, on parle de Victor, Zachary qui fait saison rookie très intéressante parce qu'il met des points et il démarre en plus à Atlanta.
Et il défend.
Et la promesse, Nolan Traoré, qu'on évoquera tout à l'heure, est-ce que pour toi, Geoffrey, ça correspond aussi peut-être à ce virage avec les jeunes qui arrivent et les anciens comme Nando Docolo ou Nicolas Batum qui demandaient peut-être un basket encore plus structuré?
En fait, moi, j'ai un peu de mal avec le terme de basket total. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire, basket total? Ça veut dire donner beaucoup de liberté et de offensive à des joueurs très talentueux individuellement. Ça, certes, Freddy l'a dit, il va essayer d'avoir 6 formes de jeu, peut-être maximum, pour essayer de...
C'est des entrées. En fait, tu sais comment ça se passe,
voilà,
quand on parle de 6 formes de jeu, ouais. C'est-à-dire que t'as 6 entrées. Mais dans ces entrées, t'as plein d'options à l'intérieur.
Okay.
Et chacun lira par rapport aux options ce qui convient le mieux. Et je pense que faire confiance à des joueurs, encore une fois, c'est hyper important. Pour moi, un coach de l'équipe de France, c'est un manager. Il doit gérer les égos, il doit gérer tout le monde sur les temps de jeu, etc. Il y a beaucoup de choses à gérer. Et je pense, en tous les cas, c'est ce qui se dit de plus en plus, être un manager, c'est ça. C'est-à-dire que proposer des choses offensivement, mais que des débuts de système pour qu'on puisse avoir de la lecture, parce que la lecture, bah, c'est ça qui fait la différence entre un joueur moyen et un joueur de très haut niveau.
En fait, dans ce que tu dis, je suis assez d'accord parce que Freddy Fautoux, il prend la place de Vincent Collet, qui était considéré comme un immense coach, comme un immense entraîneur passionné, passionné par les data, passionné par exactement les systèmes, un véritable tacticien. Je ne dis pas que Freddy Fautoux, il est peut-être... Je ne dis pas qu'il a moins de QI basket, mais peut-être qu'il veut laisser un peu plus de liberté à ses joueurs. Et en laissant plus de liberté à ses joueurs, il veut apporter sa patte qui est avant tout d'être un manager. Fred, il l'a dit, c'est un beau mot. Freddy, il prend pas de pincettes quand il a des choses à dire. Il le dit, il y va franco.
Mais c'est pour ça qu'il est respecté.
Il vient du sud-ouest.
C'est pour ça qu'il est respecté. En fait, il est dans un groupe où il y a un ego incroyable. Mm. Donc, si tu fais pas respecter, si t'as pas cette capacité à pousser les coups de gueule, bah, tu vas pas être respecté. Après, je suis d'accord avec toi, il est moins tactique et technique qu'un Vincent Collet, mais en même temps, qui est plus? Que lui-même, j'ai presque envie de dire,
oui,
dans le monde.
Oui, mais est-ce qu'on peut gagner aujourd'hui en n'étant pas un véritable fan de la tactique?
Oui, parce que t'es plus dans les mêmes joueurs. Tu le disais tout à l'heure, Arnaud, je suis d'accord avec toi, les joueurs de maintenant sont des joueurs NBA qui évoluent dans un autre système. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a beaucoup d'entrées de jeu aussi. Il y a beaucoup de pick and roll, de Spanish. En fait, en gros, tout le monde joue la même chose en NBA. Réellement, il n'y a pas grande variante. Mais par contre, dans ces systèmes, eh ben, ils trouvent des solutions d'eux-mêmes, entre eux, du jeu à deux, du jeu à trois, du jeu individuel. Et c'est ça que va vouloir prôner Freddy Fautoux.
Professeur Weiss, parce que tous nos auditeurs ne savent pas forcément Spanish.
Ben, Spanish, c'est un pick the picker. C'est-à-dire qu'il y a un pick and roll central et le pivot qui coupe reçoit, son défenseur reçoit un écran dans le dos. Donc, c'est-à-dire que tu fais un pick et tu reçois un pick. Ce qui permet de libérer normalement deux joueurs parce qu'il faut communiquer pour bien récupérer chaque joueur.
Il est bon, il n'a pas son diplôme d'entraîneur, mais.
Non, mais je commente quelques matchs.
Oui, et puis le Spanish, t'en faisais déjà aussi toi qui a beaucoup joué au Spanish, parce qu'on appelle ça Spanish.
Encore une fois, nous on appelait ça pick the picker. Mais d'un seul coup, c'est devenu super à la mode et super compliqué. Sauf que c'était exactement la même chose que dans les années 90.
En fait. Après, là, on parle beaucoup d'attaques depuis quelques minutes, mais à un moment donné, il va falloir que cette équipe, elle redéfende, en fait. C'est-à-dire que toutes les équipes de France jeunes, que ce soit les filles, les garçons, les seniors, féminines, masculines, on est bâti depuis plusieurs années, historiquement, sur une défense très forte. Là, sur les dernières compétitions, on se fait ouvrir de tous les côtés. Et il va falloir que Freddy Fautoux, qui est un peu plus...
Il est dur, hein. Voilà. Il est vraiment très dur. Hein.
Oui, mais c'est la vérité, quand même.
Non, c'est pas la vérité.
La dernière Coupe du Monde, si.
C'est pas la vérité.
Si.
À la Coupe du Monde, on ramasse de plein fouet le manque d'agressivité, le manque de préparation. Et effectivement,
et
on ne défend pas.
Mais on va en finale parce qu'on est à peu près correct.
Oui, mais tu vas me dire qu'aujourd'hui, avec des joueurs certes un petit peu vieillissants de l'ancienne génération, les Nando, les Nico, on est aussi fort individuellement en défense qu'aujourd'hui? Moi, je pense pas. Et il va falloir qu'à un moment donné, on retrouve cette hargne, se battre sur tous les ballons et ne pas se faire passer en un contre un.
C'est exactement ce qui va se passer, parce que les Zachary Grisaché, je peux t'assurer qu'avec Atlanta, avec Dyson Daniels, ça défend super bien quand les deux sont sur le terrain. Moi, je suis fan de cette équipe, alors que je déteste Trae Young. Mais je suis fan de cette équipe parce qu'il propose comme ça. Et je trouve ça intéressant. Mais c'est là qu'il aura des exigences. Et je me répète, c'est là qu'il aura des exigences, Freddy Fautoux. Ça sera sur la défense.
Puis on commence à avoir aussi un vivier de joueurs. Et si tu défends pas, si tu tiens pas ton 1 contre 1, quand on sera avec tous les joueurs disponibles, parce que là, on rappelle, c'est uniquement pour cette fenêtre FIBA des joueurs qui ne sont pas engagés en Euroleague. Et évidemment, ceux qui sont NBA ne sont pas là. Donc on retrouve Andrew Albici, qu'on entendra d'ailleurs dans un instant, Nicolas Lang, Paul Lacombe, qui sont nos vétérans des fenêtres.
C'est des bons joueurs, mais c'est pas notre équipe type. Mmh. Clairement pas.
Mais pour la fenêtre de novembre, sachant qu'il y aura deux autres matchs en février, où là, normalement, les joueurs d'Euroleague viendront. Bon, c'est quand même France-Chypre, jeudi 21 novembre. Enfin, Chypre-France, pour être précis, à Nicosie. Et France-Chypre, dimanche.
Passionnant.
Voilà.
Vraiment, Chypre, une équipe de basket réputée dans l'internationalement.
C'est un système, hein, the Cyprus.
Exactement. Pink.
Après, moi, j'ai pas un petit bémol, mais une interrogation sur Freddy Fautoux.
Tu n'es pas Freddy Fautoux, j'ai l'impression.
Bien
qu'est-ce que t'as
si.
Contre le Sud-Ouest?
Bien sûr que si.
Je suis Limogeau et j'aime Freddy Fautoux.
Je l'adore,
donc,
mais...
Tu vois, c'est un peu injuste. Le procès d'attention que tu es en train de faire à Freddy Fautoux.
J'adore Freddy Fautoux, j'adore ce qu'il a fait avec Bourg-en-Bresse.
Mais... Ah, le mais qui fait mal.
Il a un côté, et ça, messieurs, vous allez pas...
Voilà, je suis sûr ce qu'il va dire.
J'espère être forcément d'accord avec moi. Il a une personnalité assez imposante. Et il peut être mauvais perdant, voire
c'est le journaliste
peu,
ou l'arbitre qui parle
peu, alors là, c'est le journaliste, voire un petit peu même péter les plombs sur un terrain. Et ça,
tu veux dire que voir un mec qui se donne à 200%, qui a de l'énergie et qui communique avec ses joueurs, t'aimes pas?
Non, mais c'est très bien.
Non, mais c'est une question, réponds à ma question.
Mais faisons le bilan à la fin de l'ère Fautoux sur le nombre de fautes techniques prises. J'ai pas envie que les Bleus se retrouvent à jouer.
Après, aujourd'hui, une fois technique, c'est moins grave qu'avant, vous avez deux lancers.
Mais c'est surtout que ça va plus loin. Geoffrey, en fait, succéder à Vincent Collet, c'est impossible.
Oui.
Vu le vécu, il faudra du temps. Si il progresse bien, Freddy Fautou fera une belle carrière d'entraîneur de l'équipe de France et ça sera génial. Mais lui succéder à l'instant T, c'est impossible. Personne n'est capable de le faire. Donc il faut prendre Freddy Fautou avec ses qualités et ses défauts. Mais il a au moins cette qualité d'aimer le jeu et le et donner et d'impulser ça c'est
oui, on parle
à ses
pas
joueurs.
De Pozzecco hein.
Ouais, non mais non oui ben voilà mais c'est ça ça c'est l'extrême un Pozzecco c'est l'extrême moi j'aime bien j'aime beaucoup
oui, on
mais à un moment ça c'est limite
se
quoi
faire trimballer par porté par ses joueurs à la fin d'une et victoire
aller embrasser Yanis dans les coins du couloir je suis pas sûr non plus mais ce que je veux dire c'est que ça c'est la limite mais je pense que c'est important d'avoir un mec avec un peu de caractère parce que les jeunes qui arrivent là ils vont avoir un peu d'ego.
Très bien. Si tu le dis, professeur, je t'écoute.
Juste avant de conclure ce débat, ça vous fait un peu bizarre de voir Freddy Fautoux en tant que sélectionneur parce que 15 ans de Vincent Collet, et moi j'étais à l'entraînement et je me dis, bah, il est où Vincent Collet, il est où Rudy Nelhomme? Parce que beaucoup de changements en fait, et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir une page aussi importante se tourner comme ça dans notre basket, Fred.
C'est dur, bien sûr. Mais encore une fois, je pense que c'est pas un cadeau hein, de succéder à Vincent Collet parce qu'il a marqué les esprits, parce qu'il a marqué l'histoire, parce qu'il a, il a fait des choses incroyables. On doit partir d'une feuille blanche, de repartir à zéro, de se recommencer à travailler. Et Freddy Fautou, je pense que et
Freddy Fautou.
Fautou.
Ouais. Non, t'as, en fait, t'as dit Freddy Fautou.
En fait, Fautoux. Freddy Fautou, c'est ce qu'on va prendre avec le titre qu'on va gagner en championnat d'Europe.
Et ben voilà, c'est tout.
Exactement.
Que, c'est
Freddy Fautou.
Voilà.
C'est comme ça qu'on l'appellera tous. On dira Freddy. Photo ?
Alors déjà qu'on galère à prononcer le Fautoux dans son nom de famille, si là en plus on commence à inventer une nouvelle prononciation sur son nom de famille, il va être heureux Fred.
Merci messieurs, on continue dans un instant, on va parler de Lolan Traoré puisque c'est la sensation de notre basket français, c'est Basket Time, épisode 210 consacré à l'équipe de France de basket. On est avec Fred Weiss et Geoffrey Charpille.
Le leader de ce groupe, c'est lui, Nolan Traoré. La sensation de cette saison au Pôle France, en Betclic Elite et peut-être en équipe de France.
You can see Traoré going straight to the bucket.
Nolan Traoré, I'm excited to talk about him.
Traoré made one this quarter and make that two in this quarter. Oh goodness me, what can this man not do?
Nolan Traoré, and one pour Nolan Traoré. Toujours aussi fort de la Traoré en transition.
Ouais, c'est important de développer ce côté leader, surtout en tant que meneur. Donc avoir cette capacité à gérer une équipe, même en étant jeune.
Four on the shot clock. Traoré heaves and hits. Hello, Nolan Traoré. Traoré with the dish.
What a pass right there.
5 secondes à jouer sur la possession. Le ballon dans les mains du patron de la Traoré.
2 secondes, de la Traoré à 3 points.
Qu'est-ce qu'il est compliqué ce tir de la Traoré, mais il est fou. Qu'est-ce que c'est que ce shoot de la Traoré?
Il a 18 ans, il mesure 1m90, joue au Saint-Quentin Basketball, 11,5 passes en moyenne en Betclic Elite. C'est l'avenir au poste de meneur en France. Nolan Traoré est projeté dans le top 5 de la prochaine draft annoncée assez relevée. Et Nolan Traoré, il a répondu aux questions de notre ami Stephen Brun.
Nolan, comment ça se passe au début de stage? C'est une grande première, tu avais été partenaire d'entraînement l'été pendant les Jeux, mais là tu sais que tu vas jouer ton premier match jeudi. Comment ça se passe ce début de stage?
Bah, ça se passe plutôt bien, là on a commencé à s'entraîner. On commence à voir des trucs, on commence à apprendre un peu à se connaître, donc c'est cool.
Toi, t'es, par rapport aux autres, notamment Andrew, Paul ou Nico, qui ont beaucoup connu Vincent Collet, toi Vincent, tu l'as connu juste l'espace de quelques semaines cet été, donc ça fait pas un énorme changement le nouveau discours de Freddy Fautou?
Non, pas vraiment. Comme tu as dit, j'étais pas longtemps avec Vincent, même si je regardais un peu hein, les matchs et tout, mais bon, c'est pas pareil que de jouer pour lui, tu vois.
T'as un peu de stress sur ta première, la Marseillaise, jeudi à Chypre, tu y penses un peu?
Non. Ouais, c'est pas la première à Marseille parce qu'on a fait les
oui,
jeunes.
Oui, mais là c'est l'équipe
ouais,
de France.
Mais... Ah. Non, pas de stress.
Zéro pression?
Non. Plutôt content.
Et comment tu gères, il y a beaucoup d'attentes autour de toi, Kyle Korver qui était encore à Saint-Quentin, comment tu gères ça? On sait qu'on l'a beaucoup traité ce sujet-là avec Victor quand il était en France, avec Zachary l'année dernière quand il était à Bourg. Comment tu arrives à gérer toute cette attention qu'il y a au quotidien sur toi? Est-ce que tu regardes les mock drafts? Est-ce que tu regardes Cooper Flagg? Est-ce qu'il fait en NCAA? Est-ce que tu suis tout ça?
Bah ouais, je regarde un peu ce qu'il fait, ouais, parce que bah, tu le vois passer, quoi, ses actions. Mais non, après, j'y prête pas trop attention. Ouais, je me concentre plus sur moi, tu vois, sur mon jeu à moi. Je sais que si je joue bien, on parlera bien de moi, donc je me concentre sur ça, quoi.
Et le frérot, Armel, qui a vécu ses premières minutes avec les Lakers, est-ce que tu es en permanence en contact avec lui, que tu lui demandes des trucs? Parle-moi de LeBron, parle-moi d'Anthony Davis.
Ouais, non, en vrai, bah, déjà hyper cher de lui. La première minute, après en G-League, il a mis 25.
Oui, il a fait 25 et 10,
25,
non
25-11, ouais. 25-11. Donc c'est une grosse semaine là pour lui. Donc ouais, hyper fier de lui. Et ouais, bah, je lui demande parfois genre comment ça se passe, quoi, tu vois. Mais de toute façon, on parle souvent.
tu te lèves la nuit pour regarder les games?
Non, j'essaie de dormir quand même. Mais je regarde après, tu vois, si ils jouent et tout, bah là, je regarde, tu vois.
Et comment pour l'instant, le début de saison de Saint-Quentin collectivement est bon? En Backlink Elite, en BCL, ça a été un peu plus compliqué. Vous avez pris une belle doudoune à Tenerife. Il y a quelque chose qui est marquant quand on regarde ta saison, c'est qu'il y a pas mal d'irrégularités. Tu as fait quelques cartons, notamment ici dans cette salle à Nanterre en championnat, ou même le premier match de BCL contre Rhodes où tu avais été énorme. Et de temps en temps, ça descend un peu plus bas. Est-ce que c'est vraiment un vrai axe de progression d'avoir un niveau moyen un peu plus élevé sur chaque match?
Ouais, clairement. C'est un des gros axes de progression, tu vois, pas descendre trop bas dans les standards, tu vois. Donc moi, on travaille sur ça, et ça va venir avec un peu d'expérience, de temps, et ça peut être un problème.
On travaille sur ton anglais aussi?
Non, ça, mon anglais est bon.
Ton anglais est bon?
Ouais.
On m'a dit qu'il était suspect un peu.
Qui a dit ça?
Quelques sources m'ont dit qu'il était suspect. Non, ton anglais. Tu le maîtrises?
Ouais, mon anglais est bon.
Ton anglais est bon? Parfait, écoute, merci beaucoup, Noël.
Pas de soucis.
Bon match.
Ouais, merci.
Merci Stephen. Donc avec Nolan Traoré, le meneur de l'équipe de France qui va se partager la main notamment avec Andrew Albici, le vétéran, et Hugo Benitez sur cette fenêtre internationale. Fred, est-ce qu'on en fait trop ou pas avec Nolan Traoré? Parce que c'est vrai qu'on se dit on a tellement besoin d'un jeune prospect et pour le futur de notre équipe de France sur ce poste qu'on a vraiment envie d'y croire, de foncer sur Nolan Traoré.
Non, mais surtout, on n'en fait pas trop parce qu'on vient d'avoir deux numéros 1 de la draft. Donc, ça veut dire qu'on crée des joueurs intéressants pour la NBA et qui peuvent performer. C'est évidemment le futur. Nolan Traoré, il n'y a rien à dire. Je trouve qu'il est encore en up and down dans ce qu'il propose, mais par contre, quand il propose des choses bien, il est vraiment très fort. Donc tu sens qu'il y a un potentiel, donc tu sens qu'il va t'aider. Alors, si ta question, c'est de savoir est-ce qu'il doit être directement titulaire, non, je pense pas. Parce que par exemple, il y a un Théo Malédon qui performe en Euroleague, qui est plutôt très bon. On a entendu Frank Ntilikina, même si il joue pas forcément son poste en club, mais il peut revenir sur le poste 1, et il peut apporter autre chose, cette défense, cette agressivité sur le ballon. Je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent prétendre à être le numéro 1, mais c'est un joueur que tu dois prendre, c'est un joueur qui va performer, qui va avoir une relation longue avec notre Wemby national. Donc ça peut être hyper intéressant, parce que ça veut dire que ces deux joueur quasiment du même âge, alors à très peu de choses près.
2004 pour Victor, 2006 pour
Ils peuvent
pour
se taper 10 ans ensemble, 10, 15 ans peut-être, ensemble en équipe nationale. Alors 15 ans, j'exagère peut-être un peu, mais au moins une bonne dizaine d'années. T'imagines cette relation 1, alors j'allais dire 5, mais non, parce que Victor, il est 4, 5, 3, 2,
5, voilà, bon, 6, 7, 8.
En tous les cas, meneur et un joueur de cette envergure,
je
me dis que cet axe, il est complètement fou. Donc, miser sur lui, c'est une bonne chose. On en parle, c'est normal, parce qu'il faut en parler. Et il faut qu'on arrête d'être les dindons de la farce, les couillons à chaque fois. On parle de nos joueurs aux États-Unis, on parle de nos joueurs partout. Et nous, quand ils sont chez nous, on dit « Ouais, mais il faut quand même voir ». Non, c'est un joueur qui a un énorme potentiel. Et on espère qu'il réussisse à accomplir ce potentiel.
D'ailleurs, les Hawks Atlanta sont venus le superviser à Saint-Quentin, notamment avec Kyle Korver, qui était venu voir Zachary Risaché, hein,
oui.
le GM Kyle Korver. C'est vrai que ça fait quelques mois que c'est notre lueur d'espoir pour l'avenir sur notre poste de meneur, qui a été un point d'interrogation quand même ces derniers mois, Geoffrey. Et Fred l'a souligné, et Freddy Fautoux l'a souligné, il y a Théo Malédon qui est exceptionnel en Euroleague. Donc finalement, avec ces deux joueurs-là, Nolan Traoré et Théo Malédon, le ciel s'éclaircit un petit peu.
Le ciel s'éclaircit beaucoup même, parce que tu l'as dit, depuis quelques années, le poste de meneur en équipe de France, c'est quand même une galère sans nom. On ne va pas rentrer dans les détails avec l'affaire Thomas Hurtel, qui est toujours un petit peu compliquée. Mais là, on a un mec, Nolan Traoré, il a 18 ans, il fait 1m92, il a une qualité de vitesse impressionnante.
J'ai cru qu'il nous faisait sa fiche Wikipédia. Là.
Non, mais quand même, quand tu le vois jouer avec Saint-Quentin, c'est incroyable la capacité qu'il a de ralentir le jeu, puis d'un seul coup d'accélérer. Il a un vrai bon QI
stop
basket.
And go.
Le stop and go, voilà. En fait, j'avais pas le terme en anglais, ouais, c'est pour ça que j'ai jamais été joueur
professionnel. C'est pour ça que toi, ton anglais est suspect aussi.
Exactement. Après, il y a quelque chose qui est suspect, pas suspect, mais où il va devoir progresser. Steve en a parlé avec lui dans l'interview, c'est l'irrégularité, mais également la capacité à scorer à 3 points. Après,
oui, j'allais dire l'adresse extérieure parce voilà. Que c'est vrai que quand on voit, il passe parfois un petit peu au travers. Alors, quand on voit les stats, j'ai pas vu tous les tirs pris à 3 points de Nolan Traoré, donc je peux pas te dire bon ou mauvais tir.
Ouais, mais rappelle-toi ce qui se passe en NBA quand même. Hein. Paco Mdadier est arrivé, tout le monde disait il est nul à 3 points. Il a 45%. Ouais. Alors, il joue pas beaucoup, mais il a 45%. Cassel à San Antonio, il était à 26% en universitaire. Mais il a progressé aussi. Donc, voilà, prenons le temps, c'est des jeunes joueurs. Ils ont encore beaucoup de choses à travailler et à progresser, évidemment. Mais il y a le temps encore.
Vous avez dit deux mots tout à l'heure qui étaient très intéressants. Nolan Traoré, c'est l'avenir et le futur. Ça sert à rien de griller les étapes avec lui. Surtout que J'ai été un petit peu dur avec lui sur le fait qu'il pouvait s'améliorer à 3 points, mais est-ce que vraiment dans le basket que va lui demander Freddy Fautoux, avec des mecs comme Zachary Risacher ou Victor Wembanyama qui vont ultra dominer dans la raquette avec des vieux briscards autour de lui, est-ce que c'est vraiment ce qu'on va lui demander? Est-ce que Nolan Traoré, on va pas simplement lui dire t'es là pour faire jouer les copains, pour aller chercher Victor
création, sur un allié ou la création voilà, qui nous manque trop. En fait, le principal problème de l'équipe de France, c'est la création. On avait Dando De Colo parce que sur le poste de meneur, c'était compliqué. Si tu peux avoir un meneur créateur, on a un Risacher qui va pouvoir sur les ailes créer, on a un Victor qui va pouvoir créer de l'intérieur. Maintenant, un meneur, ça serait un super luxe. Et Nolan Traoré a ça en lui.
Oui, parce que il fait des passes décisives. Hein. Nolan Traoré, il est à 5 de moyenne en Betclic. Et il joue à Saint-Quentin, qui fait une super saison.
Oui.
Mais tu n'as pas forcément le même matériel bien autour. Hein, quand tu vas avoir donné le ballon à Victor, à Gershon,
tu sais,
etc.
J'ai déjà joué avec Geoffrey Chauvelin, tu vois. Comme ouais. Quoi, Geoffrey Charpie, je lui faisais des passes, il ratait tout le temps. Donc
exactement.
Toutes mes passes décisives n'étaient pas comptées.
Parce que j'étais sûrement pas ouvert, ou qu'il y avait une prise à deux sur moi. Parce
non, mais ce que je veux dire, mais t'as raison, la qualité des joueurs qui t'entourent, te permettent aussi d'augmenter ton volume de passes.
Expected assist, tu exactement. Sais, pour les meneurs, quand tu fais la passe décisive parfaite sur un tir ouvert, mais qu'on ne compte pas une passe décisive parce que ton shooter a raté.
Exactement.
Après,
Geoffrey.
Après, on est tous d'accord pour ne pas mettre forcément Nolan Traoré tout de suite titulaire dans le 5 de l'équipe de France, mais moi, c'est dur de ne pas le mettre titulaire après la saison qu'il est en train de faire actuellement, Théo Malédon, mais Andrew Albici, pour tous les services rendus pour la nation et pour toute l'énergie défensive qu'il est capable de mettre dans un
sac majeur. Je suis désolé de te dire ça, et j'ai un énorme respect pour Andrew Albici. C'est pas l'avenir. Là, tu dois travailler pour l'avenir.
Mais tu dois gagner le match aussi.
Mais tu penses que tu perds beaucoup en qualité ? Andrew Albici, défenseur hors pair, ouais, gestionnaire hors pair.
Mais pour te lancer parfaitement dans une partie, prendre tout de suite 10 points d'avance, ne pas te mettre dans un match traquenard à Chypre.
Moi, je... Ah oui, à Chypre, peut-être.
Bah
je parle de l'équipe de France.
Oui, bah
quand tu joues contre des équipes. Je ne parle pas contre Chypre. Chypre, je ne connaissais même pas. Je savais pas ça jouait au basket, moi.
La capitale de Chypre ?
Je sais pas.
Nicosie ?
Oui,
allez,
j'ai presque envie de te donner un point. Sûr.
Ah yes.
Comment tu savais ça?
Attends, je suis parti.
Ah mais t'as beaucoup voyagé toi.
Ouais ouais, je suis un baroudeur. Non mais Andrew Albissou c'est
Albissou.
Après Freddy Photo, Andrew Albissou.
Andrew Albici, il compte plus de sélections que ses 11 coéquipiers réunis sur ses fenêtres. Andrew Albici, il a été sélectionné 104 fois.
Et c'est pas
tous
pour
ses
rien.
Coéquipiers réunis, sinon c'est que 83 fois. Donc
concrètement, je suis d'accord avec toi. Voilà. Ce n'est pas rien et c'est un vrai baromètre. C'est-à-dire qu'il va être là, il va faire le taf. Mais moi, sur ce genre de match où t'as rien à perdre, tu joues contre Chypre, ouais, je pense que je mets Nolan Traoré. Hein.
Messieurs, justement, Andrew Albissou, non, Albici, est au micro de Stephen. Voici un petit bonbon, on rappelle, double vice-champion olympique. Andrew Albici, donc, qui a fait l'amitié de s'arrêter au micro de Stephen pour un entretien dans Basket Time.
Andrew, 104 sélections.
Ouais.
T'es celui qui a le plus de sélections sur cette fenêtre-là. J'ai envie de t'appeler Mr. Windows, ouais. Parce que t'es un peu Monsieur Fenêtre, avec Paul Lacombe.
J'en ai raté peut-être deux fenêtres en plus.
Ouais. Mais t'as vécu un été, peut-être pour un sportif de haut niveau, c'est ce qui se fait de mieux, les Jeux Olympiques en France, avec une médaille d'argent. T'aurais pu te dire, ça y est, j'ai fait le tour avec l'équipe de France, mais non, t'es encore là, à faire cette fenêtre-là contre Chypre. Qu'est-ce qui te motive encore?
Peut-être d'avoir raté beaucoup, beaucoup d'années. Je pouvais aussi prétendre à avoir le maillot et je ne l'ai pas eu. Et le fait d'être revenu par les fenêtres aussi, c'est une symbolique qui fait que ça me fait toujours du plaisir de représenter la France pendant les fenêtres. Et puis aussi, en dehors de l'équipe de France, le fait de couper avec le club, ça fait énormément de bien. De voir quelque chose de nouveau, un environnement différent. Et moi, ça me fait du bien. Donc c'est pour ça aussi que je prends plaisir de venir aux fenêtres.
T'as 34 ans, t'as vu tes amis avec qui t'as partagé de nombreux étés, Nico Batum, Nando De Colo, arrêter, ça t'a jamais traversé l'esprit?
Pas du tout, je suis en forme, je pense avoir à peu près au moins 5 bonnes années dans mes jambes, hein, au niveau, donc à chaque fois qu'on m'appellera, je répondrai présent, parce que comme j'ai dit, c'est une fierté de porter le maillot, c'est une petite partie de ma vie, donc j'essaie d'en profiter un maximum.
Il y a une nouveauté sur ces fenêtres-là, c'est que toi, pendant de nombreuses années, t'es arrivé, bonjour Vincent.
C'est vrai, voilà. J'ai connu que Vincent.
T'as connu que Vincent, ouais. Tu connaissais les formes de jeu, tu savais à peu près quel basket vous alliez faire. Là, c'est Freddy Fautoux, c'est une nouveauté. Ouais. Peut-être que ça a fait partie aussi de ton choix de continuer, d'avoir un nouveau discours, non?
C'est pas...
Ça t'a pas fait bizarre d'arriver, de débarquer et de dire bonjour Freddy?
Non, parce que tu te prépares avant, parce que tu sais que t'es dans la sélection, donc tu sais que ce sera ce coach-là, donc t'es... Tu te prépares mentalement à avoir quelque chose de différent. Après, moi, j'ai déjà joué contre Bourg plusieurs fois, donc je sais à peu près le style de jeu aussi qui, je pense, qu'il veut mettre sa patte. Je pense que c'est un jeu aussi qui me correspond un peu plus, donc ça fait plaisir. On va essayer d'avoir aussi, comme j'ai dit, c'est de la fraîcheur, de la nouveauté qui font quand même du bien pour un ancien comme moi qui a vécu toujours avec Vincent. Et ça peut faire aussi du bien, comme j'ai dit. Il y a un petit turnaround qui se passe, il y a des jeunes qui arrivent, donc comme je dis, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas si je vais être à l'Euro ou pas, je ne sais pas, mais donc dès qu'on m'appelle, moi je suis présent et ça me fait plaisir.
Il y a beaucoup de joueurs que tu découvres, que tu connaissais de nom, ou tu as joué contre eux sûrement en Eurocup, Noah Isangue qui est à Oum, Brice Dessert.
Il a mangé en plus.
Est-ce que tu arrives avec ce rôle de je ne veux pas dire de papa, parce que toi, tu as encore des ambitions individuelles, de grand frère, en essayant justement de inculquer les valeurs de l'équipe de France, tu les connais. En essayant d'apporter ça dans ce groupe.
Ouais, et puis surtout, tu sens que, vu que c'est la première sélection pour la plupart, ils sont timides, ils n'osent pas vraiment jouer vraiment leur jeu à 100%. Donc moi, j'essaie de un peu canaliser le jeu, parce que quand, par exemple, on travaille à la défense, donc il y a de la surpression, ça part dans tous les sens, donc des fois, il faut aussi savoir calmer. Et puis surtout que les gars ils se détendent, qu'ils jouent leur jeu parce qu'ils ont été pris pour une certaine raison, donc qu'ils le montrent aussi sur le terrain. Mais ça va se faire progressivement, c'est normal d'avoir cette appréhension quand c'est leur première sélection. Et je pense que ce sera aussi un peu pareil pendant le match, mais quand tu mets ton premier panier et tout, après ça va partir. Mais ouais, j'ai un peu ce rôle de grand frère qui va les aider un peu à se lâcher et puis jouer vraiment à 100% et puis montrer leur qualité.
Capitaine ?
Ouais.
Capitaine, ça te plaît ?
Ouais, ça me plaît.
Le bisutage est prévu pour les gamins ?
J'ai pas encore pensé à ça. Moi, je suis pas dans la scène comme
Babak. Il y a Babak qui va.
Non, encore Babak.
Moi, il va venir te voir. D'ailleurs, mon grand, faut penser au bisutage.
Mais Babak, encore, il était encore gentil. Pour moi, c'est pas le pire, c'était Flo. Flo et Mike. Mike Gélabal, c'était les pires. C'était les pires sur le petit bisutage comme ça.
Ah bah, ils vont mériter de chanter une petite chanson quand même.
Ah oui, ils vont faire des trucs. Mais là, vu que c'est court. On attend un peu, je pense que c'est après qu'on va aller à Poitiers, c'est là que ça a bien commencé. Ouais. On va bien finir en beauté.
On va terminer par ta situation en club. Est-ce que Andrew Albici est désormais espagnol à vie, ou à un moment donné, tu vas te dire, ok, pourquoi pas envisager un retour en France ?
J'envisage pas de retour en France, mais on ne sait jamais de quoi est fait demain. Donc j'aime ma vie en Espagne. Comme j'ai dit, j'ai créé un foyer aussi à Gran Canaria, j'ai ma famille là-bas, je me sens bien. Le club a toujours des ambitions, on joue en Eurocup, donc c'est une bonne compétition. Et comme j'ai dit, moi j'ai 34 ans, je ne cherche pas des gros clubs, des gros salaires, moi je veux juste être bien aussi dans ma vie. Et je pense que j'ai trouvé ça à Gran Canaria. Après, comme j'ai dit, et je le sais, le basket ça reste du business, donc on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Mais en tout cas, je ne ferme pas les portes, mais pour l'instant en tout cas, elles sont pas ouvertes.
Et tu as fait une croix sur tes ambitions de l'Euroleague, tu l'as fait quand tu es parti en Russie. Mais si tu es aux fenêtres tout le temps, c'est aussi que tu joues pas l'Euroleague, tu n'as pas envie aussi de...
Je ne vais pas te mentir que si j'ai une vraie opportunité de jouer en Euroleague, je pense que j'irai.
Il y a trois clubs en France qui jouent en Euroleague.
Ouais, mais toi c'est...
Ils aiment bien les petits à Paris.
Ils aiment bien les petits, mais par exemple, j'en parlais par exemple avec Joe. On m'a jamais contacté pour aller dans un de ces trois clubs. Donc, je pense pas que les gens ils ont un regard aussi sur moi. Donc, moi, et après, c'est comme ça, c'est la vie. Les autres clubs Euroleague non plus. Mais moi, je sais que je peux avoir le niveau. Je l'ai déjà montré. Je pense que les clubs en Espagne, ils l'ont vu. Donc, je fais avec maintenant. C'est plus une priorité, on va dire. Mais. Je suis plus dans avoir un confort de vie qui me plaît et qui me sent bien. Le
confort, il est sympa, Gran Canaria.
Exactement. Donc c'est pour ça.
Merci, Andrew. Ouais.
Messieurs, la partie 3, la partie historique de ce podcast consacré à l'équipe de France. Et vous allez nous conter les débuts d'un sélectionneur de l'équipe de France. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas eu tant que ça, puisque en 15 ans, on n'en avait eu qu'un. C'était Vincent Collet. Et justement, Geoffrey, tu as choisi les débuts de Vincent Collet. On se replonge donc 15 années en arrière.
Qu'est-ce qu'il est original ? Qu'est-ce qu'il est original, ce Geoffrey ?
Mais tu te souviens des débuts de Vincent Collet, toi ?
Oui. Non, pas du tout.
C'était il y a 15 ans. De toute façon.
Excuse-moi. Ben, j'avais arrêté.
2009 ?
Oui, j'ai arrêté en 2009. Vous jouez en Pro B ?
Ah oui, mais écoute, on a eu ce débat. Est-ce que tu dois être sélectionné quand tu joues en Pro B ?
Non.
Et pourquoi ?
On l'a vu, parce que non. Débat, j'ai un trou. On avait parlé ça de jouer en deuxième division.
Oui, mais c'est sur le handball.
Ah, c'était sur le... ah oui, avec Vincent Gérard.
Avec Vincent Gérard qui est devenu mon ami depuis.
Ah oui.
Parce que je l'avais un petit peu taclé sur ça et il n'a pas tellement aimé.
Justement,
justement, il joue en Pro B.
Justement, voilà.
Enfin, deuxième division.
Oui, bah c'est... voilà. Fin de la parenthèse.
Je vais vous compter du coup les débuts de Vincent Collet, parce que Vincent Collet, c'est 15 ans à la tête des Bleus, 8 médailles internationales. Le bilan de Vincent Collet à la tête des Bleus, il est bon, très bon, voire même excellent. Mais il faut se rappeler que les débuts ont été particuliers. Hein. Nous sommes alors le 4 mars 2009 et Vincent Collet est officiellement nommé entraîneur de l'équipe de France de basket. Il prend alors la place de Michel Gomez, tout en restant coach de l'ASVEL avec un certain Tony Parker qui arrive dans le club en tant qu'investisseur. Il n'a qu'un objectif, qualifier les Bleus pour l'Euro en fin d'année. Mais il le dit lui-même dans sa conférence de presse, on ne va pas faire de miracle. Voilà. Pour ses grands débuts, c'était le 24 juillet 2019. Voilà, c'est
beaucoup d'ambition affichée directement.
Exactement. Hein. Le 24 juillet 2009, victoire facile contre l'Autriche à Strasbourg avec 16 points de Joachim Noah, Nando De Colo et un certain Nicolas Batum qui faisait ses premiers pas. Et en août, les Bleus, ils arrachent donc cette qualification pour ce même Euro en Pologne. Et même s'ils tombent contre l'Espagne en quart, les bases, elles sont posées. Voilà. Malheureusement, dès 2010, ça va arriver très vite. Je vais vous rappeler des choses pas forcément très, très positives. Premier couac, la Coupe du Monde 2010 est le premier raté de l'ère Collet. Les Bleus se dirigeaient tranquillement vers la deuxième place de leur groupe en cas de victoire face à la Nouvelle-Zélande et qu'une défaite avec moins de 12 points d'écart leur permettrait de terminer troisième. Sauf que les Bleus s'inclinent de 12 points, ce qui nous a valu forcément une masterclass de Vincent Collet ce jour-là dans le vestiaire en après-match.
Je m'excuse de ne pas vous avoir redit sur le dernier temps mort de faire faute si on avait que 3 points d'avance au golavérage. Je m'en excuse. J'avais oublié qu'il faut tout vous dire, comme si vous jouiez au basket depuis ce matin. C'est quand même incroyable qu'il n'y en ait pas un parmi les 5. Quelle idée de le faire et qu'on attende la punition. Le seul point positif, c'est qu'on ait 2 jours de plus pour préparer. Mais si on ne redevient pas une équipe, parce que ça, il faut en parler aussi, une équipe. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là ont qu'un but, que l'équipe gagne. C'est l'équipe de France, les gars. On a 0 chance sur 1 million.
Très, très bon fond, ça, quand même.
Merci, voilà.
Non, franchement, tu l'as bien retrouvé. Heureusement, je me rappelle plus.
J'avais oublié. Alors moi, je ne comprends pas le... On a 0 chance sur 1 million. Pourquoi 1 million? Si t'as 0 chance, ça peut être qu'une ou deux.
Exactement. Mais donc cette défaite, elle les fait tomber à la 4e place et les a envoyés vers un 8e de finale impossible contre l'autre Turc. Défaite 77-95. Mais en me repassant ces images de ce match et de ce discours d'après-match de Vincent Collet, je me suis posé une question et là, je vais me tourner vers Frédéric, voilà, qui a été malheureusement le seul Arnaud à jouer
malheureusement.
Au niveau professionnel parce qu'on aurait adoré avec Arnaud, mais on n'avait pas les qualités pour. Erreur du coach ou erreur des joueurs de ne pas faire faute?
Ah. Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'un joueur de ce niveau doit savoir qu'il faut faire faute, mais c'est au coach de le rappeler.
Est-ce que c'est pas même la faute de l'assistant?
Je pense que la faute, elle incombe à tout le monde, réellement. Mais même les joueurs qui sont sur le banc, hein. Je pense que cette erreur vient de tout le monde.
Parce que les joueurs ont un manque d'implication.
Ouais. T'es pas concentré.
Je trouve que moi, je blâmerais le staff, en fait. Parce que les joueurs,
c'est la faute
dans
de tous.
De l'action.
C'est la faute de tous.
Bien sûr, tu dois savoir un capitaine, un ou deux, mais je trouve que le staff, tu le dis avant. Les joueurs le savent, mais des fois, t'as besoin quand c'est hyper chaud, quand c'est concentré, parce que la tension sortie de temps mort, machin, voilà.
La plus grosse erreur, c'est le staff. Je suis d'accord avec toi. Mais tout le monde est dans la merde, hein, sur ce coup-là. Vraiment, tout le monde est impliqué.
Parce qu'il y a quand même des joueurs avec du QI basket. Hein. Edwin Jackson, Andrew Albici, Nicolas Batum, Fabien Causeur, Alain Kofi, Yann Maïmi, Yannick Bokolo, Florent Pietrus, Nando De Colo, Boris Diaw, Michael Gelabal et Ali Traoré. Je veux dire, si dans les 12 là, ou 10 ou 12, je sais plus combien j'en ai cité, il y en a pas un qui se dit qu'il faut faire faute. Bon, je veux bien que ce soit potentiellement aux joueurs de prendre la responsabilité, mais...
T'avais oublié qu'il fallait tout dire.
Exactement.
Voilà. Si tu joues au basket depuis ce matin.
Ben oui.
J'avais oublié qu'il faut tout vous dire. Voilà, cette phrase, elle est incroyable.
Ça pourrait être le prochain livre de Fred Weiss. J'avais oublié qu'il faut
on
tout vous dire.
On l'écrira ensemble, parce que toi aussi.
Très bien, merci Fred.
Fred, tu as choisi un personnage central dans le basket français des années 90-2000. À la base, j'avais écrit clivant, JP Divy, Jean-Pierre de Vincenzo.
Un peu clivant, hein. Un peu clivant, parce qu'il faut se rappeler de ses débuts. Il récupère l'équipe de France en 95, après Michel Gomez. Décidément, Michel Gomez, il est dans la boucle. Il est dans une boucle temporelle, il est tout le temps là. Donc l'équipe de France va évidemment pas bien, on n'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques, évidemment. Mais par contre, il fait son premier Euro en 97, Euro magnifique, où on termine 10e, alors qu'on avait battu des équipes... faible, très faible. On perd contre Israël deux fois dans cet Euro, donc on termine dixième de l'Euro en 97. Donc évidemment, pas qualifié à la Coupe du Monde 98. Mais par contre, 99, on a la chance d'accueillir le championnat d'Europe, donc on n'a pas besoin de se qualifier. C'est l'avantage, c'est qu'on est qualifié d'office et qu'on va jouer cet Euro à la maison. Donc tout se passe plutôt pas trop mal au début. Les matchs s'annoncent bien, la première poule se passe bien, on va jouer à Pau, on revient à Paris. Par contre, on réaffronte en demi les Espagnols, qu'on n'avait pas gagné de 17 points, il faut se rappeler, en poule. On perd, évidemment. On est les Français. Et on se retrouve pour jouer la médaille contre les Yougoslaves à l'époque. Donc évidemment, on perd. Et on revient avec la médaille au chocolat. Sauf que on était tous extrêmement contents. Vous savez pourquoi ? Parce que grâce à cette quatrième place, on se qualifiait pour les Jeux Olympiques.
Ouais, il y avait les Jeux.
Ce qui, qui n'était pas arrivé depuis quelques temps déjà. Donc, premier pas de ce sélectionneur, on fait les Jeux Olympiques. On sait comment ça se passe aux Jeux Olympiques, on ramène une médaille d'argent, mais vous savez ce qui s'est passé aussi. Tout le monde a parlé de Vincent Zy comme l'assistant d'Alain Weiss, finalement. Enfin, il y a eu beaucoup de problématiques par rapport à qui est le coach sur la fin, est-ce qu'il a été rejeté par les joueurs, etc. Je ne pourrais pas vous apporter de réponse, non pas que je la connais, que je ne veuille pas vous l'apporter, c'est que je ne la connais pas, parce que j'avais 23 ans, j'étais un gamin et je m'en foutais complètement. Moi.
Donc, qui passait les consignes ?
Mais c'était JPDV qui était obligé d'être debout,
oui.
Donc c'est lui qui passait les consignes, mais j'avais l'impression, enfin ce qui s'est dit en tous les cas, c'est que cette équipe était dirigée par Alain Weiss. Il faut se rappeler aussi qu'il n'y avait pas Tariq Abdul-Wahad, parce qu'en 99, il y a eu le gang des chaussettes, et que ça s'est passé très moyennement. Donc, gros coup, pour 99, JPDV ne prend pas Yann Bonato. Et gros coup pour 2000, pour les Jeux Olympiques, il ne prend pas Tariq Abdul-Wahad. Et mine de rien, il finit avec une médaille d'argent et il arrête juste après. Et c'est Alain Weiss qui prend l'équipe de France. Et c'est comme ça un petit peu l'historique de ce coach éphémère de l'équipe de France. Mais qui,
DTN en même temps, il cumulait les fonctions de DTN.
À partir de 97, il est DTN. Absolument. Aussi. Et finalement, il a des résultats parce que l'équipe de France après fait d'autres résultats.
Il a fait des Jeux depuis 84 Los Angeles.
Dont 2005, parce qu'il est DTN encore en 2005 par exemple. Voilà, ça a été très compliqué pour lui à vivre, j'imagine.
Et c'est lui qui t'a donné tes premières sélections.
C'est lui qui m'a donné mes premières sélections. C'est lui qui a ramené une médaille olympique. Ça s'était pas fait depuis 56 ans, qu'on dise ce qu'on veut. Et finalement, on finit quatrième d'un Euro, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps aussi. Donc, je comprends qu'on puisse ne pas aimer Jean-Pierre de Vincenzi, mais je comprends aussi qu'on puisse respecter son travail.
Et tu trouves que des fois, on est plutôt injuste ou pas Tu comprends les deux parties ?
Je comprends les deux parties parce que. Parce que effectivement, je pense que Alain Weiss y est pour beaucoup dans cette médaille, mais c'était ça s'est passé comme ça, et il avait aussi eu l'intelligence de prendre Alain Weiss avec lui comme assistant. Donc savoir s'entourer, c'est aussi une grande force. Donc il faut respecter ça.
Absolument. Merci Fred d'avoir ravivé tes souvenirs puisque tu étais directement concerné. Allez, un rapide quiz. Vous n'êtes que deux, mais on va pas bouder notre plaisir.
Godot, il y a pas Tariq Abdul-Wahad. On s'est fait deux éléments majeurs en moins, et c'est vrai que c'est. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Allô ? Oui ? Attends chérie, je suis en train de répondre à une interview, je te laisse.
Et si c'était ça le principal danger pour les Bleus ? Un trop plein de sollicitations avant l'Euro ?
Je suis vraiment désolé. Hein.
Un quiz autour de l'équipe de France et de Freddy Fautoux. On commence donc, vous jouez tous les deux, c'est de la rapidité. Qui est le recordman de sélection ?
De quoi ?
De l'équipe de France.
C'est pour l'idiot ?
Non.
Nando De Colo ?
Non.
Nico Batum ?
Nico Batum ?
Tony Parker ?
Non. Recordman de sélection d'équipe de France. Oh, je vous piège !
D'entrée de jeu, un joueur ?
Ah bah oui.
Oui. J'en peux plus. Recordman de l'équipe de France ?
Oui, celui qui a le plus de sélections. Borisio est à 247, il est troisième. Vous donnez votre langue au chat.
Stéphane Rizaché ?
Non.
Eh bah zéro. On en a parlé juste. Non, on en a parlé juste avant le début de l'émission. Hervé Dubuisson. C'est Dub. 259 sélections.
Et deuxième ?
C'est Jacques Cachemire.
Cachemire, ouais, c'est ça. C'est celui-là que je cherchais. Ouais, je vais oublier Dubuisson.
Oh là, je vais vous tirer vos oreilles. Hein.
T'as le Dub, quoi.
Ouais, Dub,
incroyable,
c'est chaud.
On est passé à côté.
Lui qui est sorti avec Indra.
Ouais, après, attention, Stephen ne participe pas au quiz, donc là, on peut terminer à 0-0. Hein, donc,
en négatif, même. Qui sera le capitaine de l'équipe de France lors de ces fenêtres ?
Androuil Bissi.
Androuil Bissi, c'est bon pour Geoffrey. Est allé vite. Hein.
Bah tu vois, on a une bonne réponse. Ouais.
Vrai ou faux sur Freddy Fautoux ? Là, chacun votre tour. On commence par Geoffrey. Freddy Fautoux a 85 sélections.
C'est faux. Il en a 63, je crois.
On a 47.
Ouais, voilà.
Mais c'est bon, c'est voilà. Faux. Freddy Fautoux a été adjoint au maire de Pau en charge des sports.
C'est faux.
C'est vrai. Entre 2008 et 2014, de la mère partie socialiste.
En même temps, la question pot, c'est pour moi. Vraiment.
Bon, en même temps, Freddy Photo, il peut y avoir beaucoup de questions pot. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Durant l'Euro 2005, Geoffrey, Freddy Fotoux n'a marqué que deux paniers sur l'ensemble de la compétition, dont un au buzzer lors du match pour la médaille de bronze face à l'Espagne.
Moi, je peux répondre.
Euro 2005, je dirais, je crois que c'est vrai parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu.
C'est fou, on gagne de 30 contre l'Espagne.
Oui.
Donc il a marqué le panier au buzzer.
Il a marqué le panier aux 3 points au buzzer.
Oui, mais...
C'est pas un game winner, c'est un panier au buzzer. Que tu gagnes de 30 points,
mais
si tu le mets au buzzer,
on s'en fout, ça, mais c'est pas un panier au buzzer.
Il comptait pas.
On gagne de 30. On s'en fout.
Et c'est bon.
Donc t'as joué avec Freddy à l'Euro 2005.
Oui. Incroyable.
Mais c'est vrai qu'il jouait peu, mais tu te souviens de ce panier qui met... Alors, c'est un panier de fin de match, vous me
dites. Non, parce qu'on s'en foutait.
Est-ce que vous étiez dans la même chambre en 2005?
Non.
Non, jamais. Pas avec un palois.
Mais... C'est des fondations, on fait des allergies mutuelles.
Freddy Fotoux est passé par l'INSEP avant Pau.
Faux.
C'est vrai.
C'est vrai.
Il a fait une année à l'INSEP. Zéro pointé toujours.
Je le sens pas bien ce quiz.
Geoffrey. Freddy Fotoux a déclaré « Limoges, c'est ce qu'il y a de pire en France ».
C'est vrai.
Non, c'est faux.
Il sait que c'est Pau.
Je me suis dit, ça peut lui ressembler.
Oui. Freddy Fotoux a 6 titres de champion de France.
Faux. C'est faux.
Il y en a combien alors?
Il en a 4, je pense.
Non, il en a 7.
7?
92, 96,
ah ouais, quand même.
98, 99,
ouais,
2001,
c'est une bonne réponse.
2004.
Tu ne demandais pas de précision.
Alors là, Fred, fort. Donc, on reste toujours un petit peu dans la même thématique, mais on s'éloigne un peu.
T'as le droit de me mettre un point.
Il y a 3.
T'as eu bon sur quoi?
Ben sur ça.
Là, à l'instant.
Ah oui, c'est vrai. Pardon, excuse-moi.
Je préfère vérifier.
Qui a déclaré « Je me sens mieux, donc je demande le ballon avec autorité. Et comme j'ai confiance, je prends plus de shoots. C'est logique. Et puis, mes coéquipiers savent que je ne suis pas un mangeur de ballon. »
Rizaché?
Non.
Hugo Benitez?
Non. « Avant, je jouais avec mes œillères. Aujourd'hui, je regarde plus le jeu. C'est un peu grâce à Dusko. Je ne suis pas encore un super passeur, mais j'ai progressé dans ce domaine. »
Freddy Fotoux?
Non.
Donc quelqu'un qui est passé avec Dusko.
Je me sens mieux, donc je demande le ballon avec autorité. Et comme j'ai confiance...
Thomas Hurtel.
Je prends plus de shoots, c'est logique. Et puis mes coéquipiers savent que
un
je
français.
Ne suis pas un mangeur de ballon. C'est un français.
Albici.
Qui a joué à Limoges.
Nicolas Lang.
Non.
Axel Bouteille.
Non.
Est-ce qu'il est dans la fenêtre là? Mais il faut regarder les joueurs là qui ont été pris là. Fred Weiss.
Bah oui, c'est Fred Weiss. Interview avant.
C'est incroyable ça.
La demi-finale de play-off 2000 entre Limoges et Pau. C'est, tu as dit ça l'équipe.
C'est possible. Voilà. Il y a 25 ans. Hein.
Et alors pourquoi je fais cette déclaration? Puisque là tout peut revenir, tu peux égaliser et même l'emporter. Vous allez devoir me citer les joueurs qui ont participé à ce match Limoges-Pau-Orthez. J'ai pris le match 1 des demi-finales des play-offs 2000 que Limoges ira gagner ensuite face à l'ASVEL.
Okay.
C'est l'ASVEL en finale.
En finale, c'est l'ASVEL, oui.
Donc là, on est au match 1. Ça se passe à Beaublanc. Les arbitres sont messieurs Dorizon et Vautier.
Et alors
Beaublanc est plein. C'est le match 1. Limoges reçoit Pau. Citez-moi les joueurs qui ont disputé cette partie. On commence par Geoffrey.
Eh bien, je vais dire Frédéric Weiss.
Fred Weiss, c'est bon. Tu te souviens combien tu avais mis de points?
Pas du tout.
10 points, 5 sur 9 et 7 rebonds.
Ok.
Et tu avais pris 5 fautes à la 34e.
J'étais un mec qui défendait. Donc à moi?
Oui.
Marcus Brown.
Marcus Brown, c'est bon. 8 points. 2 sur 10.
Freddy Fotoux.
Freddy Fotoux, c'est bon. 10 points. 2 passes décisives.
Je reste dans les Américains. Harper Williams.
Oui, je prends les coachs aussi. Hein.
Je vais rester du côté de Pau. Gadou.
C'est trop vague, Gadou.
C'est trop vague.
Ah, Thierry. Thierry?
C'est bon, Thierry. 33 minutes.
Les coachs aussi?
Oui.
Je reste dans les étrangers, alors Dusko Ivanovic.
C'est bon, Dusko.
Yann Bonato?
C'est bon. 26 points pour Bonato.
Stéphane Dumas?
Non, pardon, 13 points, c'était 26 minutes, j'ai mal lu. Steph Dumas, c'est bon. 2 points. 5 passes décisives.
Stéphane Rizaché?
Stéphane Rizaché, oui, à Pau. 6 points pour lui, 3 sur 10
en
au
fait,
tir.
Tu connaissais mieux Pau que...
Ça arrosait.
Oui, un petit peu. Je pense qu'en 2000 à Pau, il y a plus de joueurs connus.
Ah non, je pense pas.
Ah, bah vas-y, cite.
Bruno Ham.
C'est bon. 19 minutes, 8 points. 3 rebonds.
Ils y sont allés assez tôt. Flo Pietrus.
Flo Pietrus, c'est bon, oui. 8 minutes quand même pour Flo Pietrus.
Donc attends, on est sur David Frigo.
C'est bon. Et oui, 18 minutes, je le cherchais. J'avais pas de date. Ta mémoire est encore bonne, hein.
Ouais. Ouais.
Mike Pietrus.
Mais oui, il était là, l'aîné. Air France.
Mais c'est quoi, des mecs qui ont marqué ou c'est des mecs qui sont rentrés?
Alors, Flo a marqué 2 points. Mike
non, Pietrus, mais c'est moi, je peux répondre Jean-Philippe Metelli, par exemple.
Oui, mais c'est bon.
Ouais.
Bah, 7 points.
Ah, il a marqué. Allez, je m'en
17 plus. Minutes.
Ok.
Rupert. Thierry.
Bah oui, c'est bon.
Oui, bien sûr, c'est bon.
Alors, il a pas marqué, Thierry. Le regretté Thierry Rupert.
Oui. Ah ouais, là, on va commencer à rentrer dans le dur. Là,
c'est à Fred. Hein.
Stepan Stasic.
Oui. 3 minutes. Un tir à 3 points. Je dois vous informer qu'il n'y a plus aucun joueur du CSP.
C'est ceux que j'ai cités.
Bah, tant mieux, j'en avais un.
Ah bon ?
Du côté de Pau. Ah. Vincent Mazingue.
Eh oui. Ça devait être un beau duel, Vincent Mazingue, Fred Weiss. Hein. Duel de poètes. Hein.
C'est clair.
Il est concentré.
Non, là, je vois pas. Là, je sais pas comment t'as fait. Hein. Mais donc, c'était autant de joueurs de Pau.
Limoges Pau des années 2000, on est tous tombés amoureux du basket un petit peu à cette époque-là.
Je rappelle que les coachs sont bons. Hein.
Je sais plus qui est le coach, moi.
Mais déjà, tu m'as surpris parce que je pensais que t'allais lâcher avant.
Mais non, tous les mecs de Limoges, je les connais, moi.
Oui, oui.
Mais les mecs de Pau. Robert Gullias.
Non.
Non, c'était l'année d'avant. Non, je sais pas.
Geoffrey, est-ce que tu es capable de faire tout le reste de l'équipe de Pau?
Il en reste combien?
2, 3, 4 et le coach. 4 joueurs et le coach.
Non, j'y arriverai pas. Le coach de Pau à cette époque.
J'ai une idée peut-être pour le coach de Pau.
Laurent Villa?
Non.
Didier Debelt?
Non.
Ah, oui, Bergeau?
Oui.
Oh oui!
Est-ce que tu as d'autres joueurs de Pau?
Non, les 4 autres, je ne sais pas.
Oh, t'assures pas, parce qu'on doit t'avouer un truc, Fred.
C'est très mal ce qu'on a fait. C'est très très mal.
Non, me dis pas que c'est pour ça. C'était pas possible que tu connaisses les mecs de Pau.
Tu crois vraiment que j'avais tout l'effectif de Portes en 2000?
Oui, j'ai donné les réponses à Geoffrey pour essayer de te piéger.
que sur cet affrontement.
Oui, mais là, je t'ai tué, du coup.
Bah oui, tu m'as tué, oui.
Du coup, on va donner victoire à Fred.
Bah, bien sûr, il le mérite.
Et oui, on avait triché. J'avais donné les réponses à Geoffrey Charpille pour essayer d'avoir Fred Weiss sur un match qu'il a joué.
Mais tu peux essayer de me redire les joueurs de Pau qu'on n'a pas cités?
Reeves.
Okay.
Didier Gadou,
il est bien, bah oui.
Oh ouais.
Bryson et un certain. Alors il a pas joué, c'était il y a quoi? Robert Smith, c'était R. Smith. J'ai...
Bon. Ah non, c'est Ronnie Smith.
Ronnie Smith, voilà. Victoire de Limoges 72-60. Il y aura une belle, hein, puisque vous allez perdre à Pau et match décisif, match 3.
Évidemment, on gagne à la maison.
Bah, merci beaucoup, messieurs.
Merci beaucoup.
C'était
merci
un plaisir pour ce podcast Basket Time. On revient la semaine prochaine. Ciao.
RMC Basket Time.